être adulte, c'est nourrir sa famille avant d'apprendre à lire. Pour ça, papa m'a souvent dit, si tu te couches tard, tu te cultives. Le poison de ce monde, c'est l'ignorance, les plus fragiles, coupables d'innocence. L'enfance est un long voyage, l'arrivée dépend du paysage. À ceux dont les yeux n'ont plus d'étincelles, nous chantons cette mélodie qui rappelle que le secret des plus grands trésors se tient dans les poings d'un bébé qui dort. Naître adulte, arriver sur terre par catapulte, en espérant que les grands répondent, on va chanter pour changer le monde. Naître adulte, c'est voir le jour au crépuscule, en espérant que les grands répondent, on va chanter pour changer le monde. Les droits de l'enfance dressent pas à pas, serrons-nous les pétales que l'on fasse un parc, découvrez le meilleur des mondes imaginaires.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Auditeurice de Nantes ou d'ailleurs, bonjour. Bienvenue sur la planète de la Ligue des droits humains, section Nantes. Autrement dit, la LDH nantaise. Bonjour à Nathalie, Nathalène, Jeanne, Fabienne, Émile, ici présents et présentes, ainsi qu'à Élodie et Annie qui ont grandement participé à l'élaboration de cette chronique. Bonjour et bienvenue au bar Personne. Pourquoi sommes-nous ici, me direz-vous ? Eh bien parce que tous les mois nous avons rendez-vous pour l'enregistrement de cette chronique à 18h30, un mercredi au choix, un choix que vous pouvez suivre sur les réseaux pour être avec nous. Petite citation, ouvrez les guillemets. Le président réélu avait conclu le débat de l'entre-deux-tours en évoquant sa volonté de faire de la protection de l'enfance une priorité de son prochain quinquennat. Avant même de parler de protection, voyons où en sont les droits des enfants. Nous ne ferons malheureusement pas de tour exhaustif de la question, mais nous aborderons entre autres le droit de l'accès aux soins, à l'éducation, au logement et à la protection. Mais avant toute chose, faisons comme à notre habitude un petit tour de l'activité de la section nantaise de la LDH, en commençant par le groupe de travail femmes. Eh bien, le groupe de travail femmes a permis à la LDH de participer le lundi 25 novembre dernier à la marche contre les violences faites aux femmes. S'ensuit l'activité du groupe de travail droit des étrangers.
Le samedi 14 décembre, à l'occasion de la journée internationale des migrants, une grande manifestation se prépare à Nantes. Son titre, né ici ou venu d'ailleurs, l'égalité des droits, c'est pour toutes et tous. Vous aurez bientôt toutes les précisions sur le lieu et l'heure de cette manifestation du 14 décembre sur les réseaux des organisations signataires et par voie de presse. Et pour le groupe de travail extrême droite,
le travail unitaire d'associations et de syndicats réunis pendant les législatives se poursuit plus que jamais. Et ce samedi 30 novembre, la troupe de la section nantaise de la LDH a été invitée à jouer son spectacle « Quand l'espoir s'en mêle » à Tissé Métis.
C'est le moment d'aller directement vers le droit des enfants. Et qui d'autre pourrait mieux en parler que les enfants ?
Genre aller aux toilettes, quoi.
Ils ont soif.
Je pense qu'ils ont le droit de s'acheter des jouets avec leur argent, quoi.
D'aller dans une autre ville.
De jouer. D'aller voir des spectacles.
Ils ont le droit de griller des chamallows avec leurs parents.
Alors, c'est une leçon que mon fils a appris à l'école. Et donc, il y a le droit de manger, le droit de s'habiller, le droit à l'éducation. Et les autres, je ne sais plus, mais je crois qu'il y en a 10.
Fabienne, quel est le support qui nous permet de savoir quels sont les droits des enfants ?
Support, mais si on prend celui qui parle de droits universels pour les enfants, on peut parler de la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989.
Est-ce que tous les États ont signé et ratifié cette convention ?
Alors, il y avait déjà une déclaration en 1959 hein, qui n'était effectivement pas contraignante. La convention est contraignante. Pour qu'elle soit contraignante et pour que les directives qui sont dans la convention entrent dans les lois, il faut que les États les ratifient. Et en effet, les États-Unis, par exemple, n'ont pas ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant.
Et est-ce qu'on sait pourquoi ?
Sans doute pour pas mal de raisons liées au système fédéral américain. mais aussi parce que il y a encore des États aux États-Unis dans lesquels on exécute des personnes adultes pour des faits pour lesquels elles étaient coupables quand elles étaient enfants.
D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette Convention internationale des droits de l'enfant et peut-être les deux aspects, la protection et l'émancipation, il me semble.
Oui, si. Alors, on peut dire qu'on a entendu des droits qui ont été cités là, mais en réalité, on peut aussi essayer de les classer en deux parties. On peut les classer de plein de façons possibles et imaginables, mais on peut dire qu'il y a des droits qui sont davantage actifs, qu'on appellerait des libertés, et puis des droits plus passifs, en tout cas qui seraient des droits créances. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le droit à l'éducation, par exemple, l'article 28 de la Convention des droits de l'enfant, le droit à l'éducation, c'est un droit que les adultes sont obligés d'accorder aux enfants, alors que la liberté d'expression, c'est le droit des enfants de s'exprimer eux-mêmes. Mais on voit bien qu'il y a une dialectique indispensable entre ces deux types de droits.
D'accord. Et comment est-ce qu'on peut accompagner les enfants vers l'émancipation ?
Eh bien, je crois que sans éducation, pas d'émancipation. il faut leur donner les clés de la compréhension du monde. Il faut les aider dans leur réflexion, les accompagner dans le développement de leur esprit critique, les aider à penser, donc leur donner des outils pour penser. Il ne suffit pas de leur donner la liberté. Si on donne à un enfant la liberté de s'exprimer sans qu'il ait les clés pour penser, c'est comme si on lui donnait une coquille vide. Peut-être même que ça pourrait se retourner contre lui. Donc il faut, pour qu'il puisse s'émanciper, grandir, et dans la notion de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire dans un monde de paix et de dignité, de liberté, d'égalité, il faut pour ça lui donner les clés pour penser.
Dans le petit enregistrement que nous venons d'entendre, il y a quelques droits qui ont été énoncés par les enfants. Je vais en rajouter quelques-uns, à savoir le droit à l'identité, le droit à la santé, le droit à l'éducation, à la vie en famille, à un niveau de vie suffisant, le droit d'être protégé de la violence, le droit de s'exprimer, le droit d'être protégé de la guerre, d'être protégé de l'exploitation, le droit de jouer et d'avoir des loisirs, ce qui en fait 10. Est-ce que tu en vois d'autres, Fabienne, qui auraient pu ne pas avoir été dit et qui te sembleraient très importants ?
Là, comme ça, je ne connais pas les 54 articles de la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais le droit à être mis en sécurité, à être protégé, on a parlé tout à l'heure de la protection, parce que, par définition, la Convention internationale des droits de l'enfant accorde des droits spécifiques à l'enfant. C'est ça la particularité de ce texte. C'est que si on accorde des droits spécifiques à l'enfant, c'est justement parce qu'il est vulnérable. Et parce qu'il est vulnérable, il a plus de droits et des droits autres que simplement les adultes. Il est vulnérable. J'ai envie de citer Philippe Mérieux, qui dit « Les chagrins des petits ne sont pas des petits chagrins ». C'est-à-dire, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que l'enfant, c'est à la fois un être complet, donc sujet de droit, mais qu'à la fois, c'est aussi un être inachevé. Et pour qu'il continue à grandir, il faut le protéger, il faut l'accompagner et lui donner les clés de compréhension du monde. Et c'est cet ensemble. Alors, je ne pourrais pas lister tous les droits, mais le principe de base, c'est celui-là.
Et comment agit la LDH dans ce domaine, en particulier peut-être le domaine de la scolarisation ou l'émancipation ?
Alors c'est peut-être une question qu'on va voir juste après. Peut-être qu'on peut profiter de cette introduction pour aller vers un enregistrement qui va nous emmener vers le droit à l'accès aux soins, le droit aux soins. Jean-Luc, que nous avons rencontré il y a quelque temps, qui nous en parlait.
Jean-Luc, qu'en est-il donc de l'accès aux soins des enfants ?
Eh bien, la situation actuelle se caractérise par une aggravation de l'état psychique des enfants et des adolescents. Et face à cela, l'accès aux soins est mis à mal. actuellement, d'une part par la politique d'austérité hospitalière de l'hôpital public, et notamment en ce qui concerne la pédopsychiatrie, avec un état absolument catastrophique, puisqu'il n'y a plus sur le département que 14 lits d'hospitalisation en pédopsychiatrie. Il en faudrait à peu près 3 fois plus pour répondre aux besoins. Et par ailleurs, la détection du mal-être des enfants est mise à mal par le fait que la médecine scolaire est également décimée, mais ça depuis beaucoup plus longtemps, et que les médecins scolaires ou les infirmières scolaires ont beaucoup trop d'enfants à observer, à accueillir, pour pouvoir faire réellement un travail de détection efficace. Et puis en plus de ça, si elles détectent un enfant qui va mal, elles ont beaucoup de mal à trouver du répondant.
Est-ce que la situation aurait tendance à s'améliorer ? Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Ou est-ce qu'au contraire, ça empire ?
Alors, ces derniers mois, ça empire, puisque là, des lits de pédopsychiatrie ont été fermés, faute de personnel soignant et de personnel médical et disponible. Et pour l'instant, la seule solution qui a été la rustine qui a été trouvée, c'est de transformer un service adulte en 8 lits de 12 ou 14 lits, je me souviens plus très bien, en 8 lits de pédopsychiatrie, ce qui n'est absolument pas une bonne solution, puisque pour les protéger, on est obligé de les mettre dans des chambres fermées, qui est un non-sens pour la prise en charge d'un enfant qui a une besoin d'une relation soignante et non pas d'un enfermement.
Nous avons à Nantes en construction un bel hôpital. Est-ce que cet hôpital pourra permettre de pallier à ces manques ?
Non, tout simplement parce que la psychiatrie ne fait pas partie du projet du nouvel hôpital. Et en plus de ça, ce nouvel hôpital, de toute manière, lui, va avoir encore un nombre de lits diminué. Donc non, ça ne répond absolument pas.
Est-ce que dans ce domaine particulier de la pédopsie, il y a un relais dans le privé de ce qui peut manquer dans le public, dans le soin public ?
Ben non, parce que pour les pathologies, pour les maladies psychiatriques qui ont besoin d'une hospitalisation, eh bien, ce n'est pas le cabinet du pédopsychiatre qui va remplacer le lit d'hospitalisation. Et donc là-dessus, des enfants ou des adolescents se retrouvent sans solution.
Jean-Luc, je t'ai entendu parler tout à l'heure de droits opposables. Est-ce que tu peux nous contextualiser et nous expliquer, s'il te plaît ?
Beaucoup de citoyens, se retrouvant dans l'impossibilité de se soigner correctement, disent mais l'État ne respecte pas le droit à la santé. Et en fait, il le respecte, mais dans la mesure de ses moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à un gouvernement, à un État, à une République, de ne pas assurer le droit à la santé. C'est-à-dire que s'il met les moyens dont il dispose, il organise les moyens dont il dispose, on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire plus faute de moyens. À la différence d'un droit opposable, par exemple, le droit au logement, qui est aussi constitutionnel, il est opposable. C'est la loi Dalo, justement. Et ça veut dire que si quelqu'un est à la rue, l'État doit l'héberger. Et donc, il faut qu'il trouve une solution. Dans le domaine de la santé, ça n'existe pas.
Fabienne, le groupe de travail national des droits des enfants a visiblement travaillé 4 gros points, dont un sur la santé mentale des enfants. Est-ce que tu saurais nous en parler un petit peu ou pas ?
Alors, le groupe de travail au niveau national s'appelle Éducation, Jeunesse et Droits de l'Enfant. Et effectivement, ils ont sorti récemment, là, il y a un mois, un document pour des politiques publiques garantes des droits de l'enfant. Et le quatrième volet, effectivement, concerne la santé mentale. Jean-Luc en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est surtout d'insister sur le besoin de moyens. Je crois que ça a été dit relativement clairement tout à l'heure. quand on dit qu'il y a un médecin scolaire pour 12 000 élèves, eh ben ça y est, hein, les choses sont dites, quoi. Et il est urgent de remédier aux insuffisances de moyens, de personnel médical, de services, de structures, d'augmenter les ressources des unités de pédiatrie et pédopsychiatrie, mais ça, Jean-Luc l'a dit aussi tout à l'heure. Et je crois que voilà, c'est essentiellement ce qui est sorti de ce travail-là. Il y avait 4 points à l'ordre du jour de la dernière parution du groupe national. J'ai oublié les autres, si l'égalité des droits dans le système éducatif, l'enfermement des mineurs et les droits fondamentaux des enfants. Ça, c'est à l'échelle nationale.
D'accord. Nathalie, tu nous avais parlé en préparation de cette chronique d'équipes mobiles qui pouvaient se déplacer et éventuellement pallier au manque de soins en hôpital public notamment.
Oui, alors effectivement, il y a des équipes mobiles qui sont mises en place, multidisciplinaires, qui peuvent pallier le manque de lits en structure hospitalière. Mais c'est vrai que c'est très variable d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, et qu'il n'y en a pas suffisamment.
Jeanne, comme on l'a entendu tout à l'heure, il ne suffit pas que des droits soient déclarés pour qu'ils soient effectifs. Est-ce que tu pourrais nous parler de la situation, notamment au niveau du logement, mais aussi de l'accès à l'éducation des enfants sur le territoire nantais ?
Oui, effectivement, l'école est un droit. Après, il n'est pas forcément appliqué... pour tous les enfants, dans la mesure où, par exemple, les enfants qui vivent en bidonville vivent dans des conditions qui sont difficiles d'accès. S'il n'y a personne pour les conduire à l'école, ça reste compliqué. Ils sont souvent en dehors des, voire loin des transports en commun. Donc il faut que ce soit un parent qui puisse les conduire à l'école. Et quand les parents travaillent, c'est pas forcément facile. Ils se retrouvent, si la mairie ne met pas en place un dispositif pour venir chercher les enfants, souvent ça amplifie les difficultés pour que les enfants aient accès à l'école. Et il y a aussi les enfants à la rue. Là, dernièrement, on a pu voir sur Nantes au moins deux faits dans les journaux qui indiquent que dans les écoles, elles ouvrent les classes, les institutrices, instituteurs ouvrent les classes pour accueillir des enfants qui sont à la rue. Parce que c'est quand même la base. Là, on parlait de santé mentale tout à l'heure, mais c'est aussi comment est-ce qu'un enfant qui n'a pas de possibilité pour dormir correctement et être au chaud et pouvoir avoir une vie d'enfant, comment est-ce qu'il peut aller à l'école et être disponible pour pouvoir recevoir l'éducation qu'on a envie de lui transmettre ?
D'ailleurs, les chiffres sont assez parlants. Il y a 1375 enfants en bidonville. Et tu disais que c'était un tiers.
Il y en a à peu près un tiers qui sont scolarisés.
Scolarisés seulement.
Voilà.
Et peut-être aussi reparler des conditions de logement. Tu l'as un peu évoqué, mais un peu plus en détail, qui font aussi que finalement, c'est un frein pour aller à l'école.
Mais il est évident que dans les familles en précarité ont des difficultés de matériel pour scolariser les enfants. C'est également pour laver le linge, pour le sécher. Il y a les logements. Quand ils sont en logement, il y a des familles qui ont des difficultés pour payer l'électricité. Donc, elles préfèrent quand même nourrir leurs enfants. Donc, il y a aussi tout ça. Après, c'est pour laver le linge, c'est pour le sécher, c'est pour avoir déjà aussi des conditions d'hygiène pour pouvoir ne pas être discriminé en disant « tu sens mauvais », parce que comme ils n'ont pas d'électricité sur les bidonvilles, souvent il y a des feux de camp pour se réchauffer et avant d'aller se coucher. Donc ils ont des odeurs qui font que ces enfants se sentent discriminés et ne vont pas à l'école.
J'ai entendu parler de la loi Kasbarian. Est-ce que tu pourrais nous dire de quoi il en retourne et si elle a une incidence ?
La loi Kasbarian, c'est une loi qui protège les petits propriétaires et qui, en fait, fait que les familles qui ne peuvent pas payer leur loyer sont plus facilement mises à la porte. Et c'est, je lisais une étude dernièrement et on voit que maintenant, les gens... C'est quand même important d'avoir un logement, un toit, ça c'est aussi une sécurité, vont choisir de payer leur logement plutôt que de payer leur électricité ou leur gaz, parce qu'ils savent qu'avec les services sociaux, ils vont pouvoir avoir plus d'aide de ce côté-là. Donc, dans la précarité, on est obligé de choisir. Je paye mon loyer, mais je ne pourrai pas payer mon électricité et je vais encore moins bien me nourrir. Donc après, c'est ça, cette loi. Ça amplifie encore les difficultés pour les personnes qui sont en précarité, cette peur d'être expulsées beaucoup plus facilement qu'avant.
Alors, parlons maintenant du droit à la protection des enfants. Commençons par la loi. Que dit la loi en France ? La protection de l'enfance, elle est encadrée par le Code de l'action sociale et des familles, qui nous dit « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, son développement physique, intellectuel, affectif et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. » Depuis les lois de décentralisation de 1983 et 2004, ce sont les départements qui sont chargés par l'État de mettre en œuvre la protection de l'enfance. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? En octobre 2024, le Conseil économique, social et environnemental a remis un rapport au Sénat sur la protection de l'enfance, dans lequel il alerte sur le déficit d'ambition collective, la désorganisation et l'épuisement des acteurs. En France aujourd'hui, 34 400 mineurs et jeunes majeurs sont pris en charge dans le cadre de la protection de l'enfance. Et selon le syndicat de la magistrature, au moins 3 550 mesures de placement ne sont pas exécutées faute de moyens. Ce qui peut amener certains enfants à être maintenus dans leur famille, pourtant considérées comme négligentes, voire maltraitante. Et en Loire-Atlantique, en avril 2024, 7800 mineurs bénéficiaient d'une mesure de protection. Alors, écoutons maintenant le témoignage de Nina, travailleuse sociale.
Alors, bonjour Nina. Tu es travailleuse sociale et tu t'occupes de l'accompagnement à la parentalité de familles avec des enfants, quel que soit l'âge des enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe lorsqu'il y a une information préoccupante pour un enfant via le 119, un particulier, l'école ou un professionnel ?
Oui, alors, donc dans ce cas de figure, il y a donc une assistante sociale qui se rend au domicile de l'enfant qui a fait l'objet de cette information préoccupante. Et elle va évaluer sa situation et essayer de déterminer s'il y a un risque de danger, un danger immédiat, un risque de danger ou s'il n'y a pas de risque. Donc s'il n'y a pas de risque, l'évaluation est classée sans suite. Donc, s'il y a un danger immédiat, le juge ordonne un placement, soit en institution ou bien en famille d'accueil, chez un assistant, des assistants familiaux.
Quand tu dis institution, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, institution, ce sont les MEX, ce qu'on appelle les MEX aujourd'hui, qui était le nouveau nom pour foyer. Donc, s'il y a risque de danger, donc il va y avoir une mesure administrative avec l'accord des parents à domicile, qui va être donc mandatée par l'aide sociale à l'enfance, qui dépend du département. Et donc, c'est dans ce cadre-là, de cette aide éducative à domicile, qu'on intervient chez la famille. Si le risque est persistant, on met en place, le juge met en place une mesure judiciaire. avec une mesure judiciaire, donc avec un accompagnement à domicile renforcé. Si le risque effectivement est avéré, donc le placement peut être prononcé par le juge, mais pas forcément exécuté, puisque les délais sont très longs avant d'aboutir au placement, puisque on est confronté à un manque de place dans les institutions et à un manque de familles d'accueil. Ça répond aussi à un manque de moyens. Dans la protection de l'enfance, donc il y a un manque de structure, un manque de professionnels et beaucoup de turnover. Du coup, ça peut être dommageable pour l'enfant puisque le lien de confiance a beaucoup plus de mal et prend beaucoup plus de temps à s'instaurer entre l'enfant et le travailleur social.
Alors Nina, est-ce que tu peux apporter ton témoignage sur un accompagnement, l'accompagnement d'un nouveau-né que tu as fait à la maternité de Nantes cet été, il me semble, en tant que TISF, donc travailleuse d'intervention sociale et familiale?
Oui, alors je suis intervenue pendant plusieurs semaines à la maternité de Nantes auprès d'un bébé qui avait fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire par le juge des enfants parce que les professionnels avaient constaté un état de grande incurie de ses parents. Et donc, dans ces cas-là, nous intervenons pour nous occuper de ce bébé pour éviter le syndrome de l'hospitalisme.
Mais est-ce qu'il ne devrait pas aller en pouponnière, ce nouveau-né, c'est-à-dire en foyer pour bébé?
Alors, normalement, si. Mais le problème est que il n'y a pas assez de place dans ces pouponnières dans notre département et les autres d'ailleurs, ce qui fait que ces bébés-là sont obligés de rester dans les maternités de quelques semaines à quelques mois. Mais ce sont des bébés qui, dû à ces carences affectives, ils peuvent dormir beaucoup, ne pas pleurer, ils sont très discrets, ils se manifestent peu, ils se laissent un peu aller en quelque sorte ils peuvent ne pas suivre du regard, ne pas trop réagir aux interactions avec l'adulte, donc il y a nécessité de recréer ce lien d'attachement à travers le pot à pot et des moments passés exclusivement avec ce bébé pour recréer ce lien d'attachement.
En avril 2024, l'Assemblée nationale, à la demande du Parti socialiste, a décidé la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les manquements de l'aide sociale à l'enfance. Cette commission avait 6 mois pour remettre ses conclusions. Elle a été interrompue suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenzweig, s'inquiète de ce coup d'arrêt. Dans son blog consacré aux droits des enfants, il nous dit « Le réveil doit sonner. Il est temps de relancer le processus de renouveau de la protection de l'enfance. Il y va de l'intérêt commun. Aura-t-on la lucidité de l'admettre ? Il est temps de siffler la fin de la récré. »
Et la commission d'enquête parlementaire sur l'aide sociale à l'enfance a finalement été relancée en octobre 2024. Elle a 6 mois pour proposer des actions sur les taux d'encadrement et la détresse des départements.
Fabienne, est-ce que tu peux nous parler du travail effectué par le groupe de travail local ?
Alors, oui, après le groupe de travail national, alors on n'a pas un groupe de travail enfant à Nantes, mais un groupe qui s'appelle Éducation populaire, événements culturels. Et on intervient dans les établissements scolaires, à la demande des équipes éducatives, par exemple, enseignantes, ou aussi parce qu'on est dans le contexte de grand concours national qui s'appelle les écrits pour la fraternité. Et puis on accompagne des groupes d'élèves. On a reçu il y a 15 jours, un peu plus, les élèves délégués de 4e et 3e du département, par exemple. Et donc c'est les moments où on leur parle justement de liberté, d'égalité, de solidarité, c'est-à-dire de ce que la Convention internationale des droits de l'enfant fait du contexte dans lequel on souhaite qu'ils vivent tous. Au-delà, alors ça c'est en plus de ce que la LDH fait en termes politiques aussi dans le collectif de protection des mineurs non accompagnés et des enfants des bidonvilles.
Et voilà qui est dit. C'est donc ici que va s'achever notre tour d'horizon sur le droit des enfants. J'imagine qu'il reste plein de questions, plein de mystères, certainement des témoignages qui auraient pu être apportés, mais nous n'avons malheureusement pas le temps de tous les prendre. Un grand merci à Jeanne, Annie, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui nous a aidés à préparer la chronique. Un grand merci à Fabienne, Nathalie, Nathalène et moi-même. Éventuellement, on pourrait dire merci aussi à Jean-Luc. Si vous avez des réactions, des questions ou des réponses, écrivez-nous à nantes@ldh-6france.org. Et n'oubliez pas qu'au croisement de la rue de Coulmiers et de la rue d'Allonville siège un bar entre quatre murs. Son nom est Personne. Dans ce bar, Personne, vous pourrez venir participer, du moins écouter ce qui sera dit pour la prochaine chronique le mercredi 18 décembre à 18h, où nous vous donnons rendez-vous pour échanger sur le Proche-Orient, c'est-à-dire entre autres la Palestine, le Liban et tout ça. Chronique qui sera diffusée le 1er janvier, également à 18h30.
Tous les instruments.
D'ici le 18 décembre, nous vous souhaitons de belles écoutes sur les ondes de Jet FM, la station des droits et des libertés.